Alors, simplement, on a une petite demi-heure avec Valérie sur fantasy d'autres cultures. Wow. Introduis-nous tout ça.
Bon, alors, c'était compliqué de trouver un titre pour le sujet qu'on avait un petit peu défini avec Jérôme. Et on ne voulait pas que ça soit un sujet qui soulève des problèmes qui n'existeraient pas. Enfin bref. L'idée au départ part d'une étude américaine qui pose le problème de combien d'auteurs de couleur, je vais dire auteurs de couleur, même si c'est un terme que j'apprécie pas et qui n'est pas utilisé comme ça par les gens de couleur. En France, on se définit plutôt comme les racisés, mais je ne vais pas vous embêter avec du vocabulaire militant de base, ça serait trop long à définir, donc on va dire les gens de couleur. Moi, ce que je vous propose, c'est une demi-heure pour réfléchir ensemble à la façon dont les cultures différentes de la culture occidentale réussissent ou pas à prendre place et peuvent continuer à s'épanouir dans les œuvres de fiction spéculative, que ce soit fantasy, science-fiction ou fantastique. Il ne s'agit pas de faire preuve pour moi, comme vous voyez, j'ai mes feuilles, hein, je ne suis pas aussi aguerrie que certains. Il ne s'agit pas de faire preuve d'érudition littéraire ni historique, j'ai trop de lacunes dans le domaine pour pouvoir prétendre rivaliser avec la plupart des lecteurs et amateurs du genre. Je n'ai pas non plus la prétention d'aborder tous les aspects de la question qui dépasse largement le domaine littéraire. C'est un sujet complexe et je n'ai pas la vanité de réussir à tout envisager. Je vous propose, cela dit, deux pistes de réflexion, un angle auteur et un angle personnage-lecteur. Je dis bien un angle parce que pour chacune de ces pistes, il y aurait d'autres façons d'aborder la question et d'y répondre. Je n'apporte pas de solution toute faite, ni de certitude. Et puis une autre petite précision en préliminaire. Compte tenu de ma personnalité et du terme abordé, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop de parler surtout d'auteurs, d'univers et de personnages noirs. Parce que j'ai plus d'infos là-dessus, quoi, a priori. Alors, je vais commencer par une précision et une espèce de précepte qu'on pourrait adopter à toute la littérature. C'est « tu ne jugeras pas à la dose de mélanine ». Je vous explique pourquoi. Il y a un grand nombre d'années, avant Internet, je me trouvais mes livres en anglais dans une grande librairie de l'avenue Saint-Michel, chez un Joseph ou chez un jeune, je ne sais jamais très bien. Donc on est au rayon livre en VO, il y a deux personnes noires qui regardent les présentoirs, qui discutent en anglais. Mince, je ne trouve pas le rayon littérature noire, tu l'as vu quelque part? Ah non, je n'ai pas trouvé, c'est peut-être ailleurs. Comme je ne loupe jamais une occasion de pratiquer mon anglais, et que j'avais compris qu'elle ne cherchait pas des polars, je m'accruse dans la conversation pour leur expliquer qu'en France, non, on ne classe pas les auteurs selon la couleur de leur peau ou leur origine raciale, hein, j'espère que vous entendez les guillemets. Donc après un « Oh merci, votre réponse nous fait gagner du temps », elle s'éloigne et j'entends un « What a shame », qui signifie vraiment « Elles sont nulles, ces librairies françaises ». J'ai ce souvenir en tête de façon très précise, parce que oui, c'est une vraie scène de vie, ça m'est vraiment arrivé. Et je me souviens avoir pensé, toi-même, what a shame, non mais les pauvres, ne pas choisir un auteur juste pour ce qu'il écrit, mais mettre sa race avant le contenu de son livre pour faire son choix, c'est vraiment n'importe quoi. Je trouvais ça terrible et vide de sens littéraire. Mais bon, c'était des Américains, ils sont pas pareils, je pourrais mettre des seins là-dessus, je vais m'assister.
Oui, là c'est à moi.
Ouais, c'est le sketch qu'on
a fait. On a beaucoup répété. Ouais, regardez, je lis pas. Et aujourd'hui, penses-tu toujours à la même chose?
Bien, merci de me poser cette question. Bien des années plus tard, mon regard sur la question n'a pas changé. Je continue à penser qu'on ne devrait absolument pas choisir un livre selon la couleur de peau de son auteur. Mais cet avis s'est nuancé. Le qui est l'auteur, le d'où il vient, le quelle est sa culture, sont des questions qui sont maintenant plus présentes. Ce n'est pas aussi important que la qualité de l'écriture, hein, ça je pense qu'il faut vraiment qu'on s'entende là-dessus. Mais l'altérité culturelle, elle ne doit pas être négligée. Pourquoi? Parce qu'il me semble que les œuvres de fiction, particulièrement quand elles se disent spéculatives, doivent prendre en compte l'importance de proposer un monde, des mondes, dans lesquels les personnes autres que blanches sont représentées de façon à ce qu'elles puissent s'identifier. Nous y reviendrons en parlant des personnages et du lectorat. Mon anecdote date d'une période passée et à l'heure actuelle, de ce que j'ai collecté, les auteurs n'apprécient pas tous d'être classifiés en fonction de leur couleur. Cette démarche a pu être nécessaire, comme le dit Nora Jamison, qui est une auteure noire américaine, pour lancer des carrières au moment où être noir dans le milieu de l'édition aux États-Unis, ça n'aidait pas vraiment. La solution du roman écrit par un ou une noire pour un lectorat noir, spécifiquement, cela répondait sans doute à une demande et à une situation précise. C'est une situation dans laquelle il faut prendre compte de la façon différente d'aborder les questions raciales aux États-Unis. Mais à l'heure actuelle, ne faites pas l'erreur de proposer aux auteurs de couleur d'être rangés à part. Ce serait vraiment malvenu pour bon nombre d'entre eux. Si la question intéresse certains d'entre vous, d'ailleurs, je recommande d'aller lire à ce sujet le blog de Nora Jemisin. Elle a fait un article très précis sur la raison pour laquelle elle ne souhaite pas être classée dans le rayon auteur afro-américain qui existe, qui continue à exister dans les librairies américaines. Ça n'existe pas chez nous. Ça ne change pas le problème de se poser la question sur où sont les auteurs noirs, arabes, asiatiques en France. Donc.
Ok. Donc, ok. Pourquoi est-ce qu'on doit se poser la question des origines de l'auteur?
Alors, tout d'abord, si c'est juste pour en faire un sujet de curiosité, oh, regardez, l'auteur, il est noir, il est asiatique, il est indien, il est arabe. Ça, c'est non, c'est plutôt malsain et condescendant, c'est pas la peine. En revanche, prendre en compte les origines de l'auteur, c'est pouvoir enrichir le genre par la diversité des écrits prenant source dans l'imaginaire d'une personne d'une autre culture. Ce qui peut, en plus, venir bousculer nos habitudes de lecture, ce qui n'est jamais une mauvaise chose. Certains ateliers d'écriture américains, nommés « Écrire l'autre », permettent notamment de s'apercevoir qu'il y a des attitudes, des comportements, des réflexes liés au fait d'être noir, asiatique ou arabe, que quelqu'un de blanc ne réussit pas toujours à rendre au plus juste. C'est aussi valable pour les questions de genre, comment écrire la transidentité quand on n'est pas concerné, ou les questions de validisme, comment écrire un personnage aveugle quand on n'est pas touché par la cécité. C'est-à-dire, je ne parle pas d'envie, il y a des vrais ateliers qui s'appellent « Writing the Other », qui proposent aux auteurs de percevoir des personnages avec certaines particularités qu'ils n'ont pas forcément, et qui leur permet de mieux comprendre en quoi on fait des erreurs quand on écrit ces personnages-là. Le personnage mal écrit parce que l'auteur n'a aucune information réaliste sur ce dont il parle, ce n'est pas forcément facile à constater en ce qui concerne la race. Pour faire un parallèle, ça ressemble à la façon dont certains auteurs étrangers décrivent les Français, par exemple, ou la façon dont certains auteurs n'ayant pas fait suffisamment de recherches décrivent sans justesse une période éloignée de l'histoire. C'est-à-dire ce qu'on ne connaît pas bien, Isabelle l'a très bien dit tout à l'heure, ce sur quoi on n'a pas fait énormément de recherches, ben parfois on l'écrit avec un petit truc qui ne va pas, quoi. Ça ne colle pas tout à fait.
Tu veux dire qu'on n'a pas tous des bérets et des baguettes en permanence?
Regarde la salle.
Il n'y a pas une baguette ici. C'est n'importe quoi.
Alors, en quoi les auteurs et autrices de cultures différentes apportent des personnages d'une plus grande diversité? Donc, pour enrichir le genre, dans un premier temps, de façon assez simple, parce qu'ils pensent, tout simplement, à créer des personnages qui leur ressemblent. Parce que pour elles et pour eux, le blanc n'est pas la couleur de peau par défaut au quotidien. C'est pas un défaut d'être blanc, hein, c'est pas ce que j'ai dit, ne me faites pas dire ça. Ils sont noirs, ils sont arabes, ils sont asiatiques, et donner vie à des personnages taillés dans les mêmes nuances est certainement plus naturel. Je mets bien évidemment des bémols à cela parce qu'il est bien évident qu'un auteur, une autrice de SF ou de fantasy, et sans doute un auteur de fiction tout court, s'estime certainement en mesure de créer n'importe quelle sorte de personnage, et tant mieux. Je veux dire, ça ne se remet pas en doute. Et sinon, personne ne pourrait jamais écrire sur le ressenti de géant bleu de 3 mètres. Donc évidemment, on n'est pas obligé d'écrire que sur les choses qu'on connaît, parce que sinon, il n'y aurait pas un seul dragon en littérature. Cependant, connaître certains fonctionnements de par son vécu permet aussi d'éviter de proposer un personnage qui ne serait que la somme de clichés. Les clichés que l'on entretient à propos de ce que l'on n'est pas. Alors bien évidemment, tout comme il n'est pas nécessaire d'être une femme pour écrire des personnages féminins cohérents, il n'est pas absolument nécessaire d'être de la couleur de son personnage pour le rendre crédible. On imagine la tête des auteurs dont parfois les personnages sont verts ou visqueux, quoique pour certains ça colle. Alors, il semblerait, de façon assez normale, qu'écrire des personnages d'autres cultures existantes, cela n'ait pas été une préoccupation pour la quasi-majorité des auteurs blancs qui ont écrit sur ce qu'ils connaissaient. Aucune raison de leur en vouloir ou de leur reprocher a posteriori. C'est comme ça, on écrit d'abord sur ce qu'on connaît, et puis après, peut-être qu'on peut on peut s'ouvrir sur autre chose. Cela dit, on n'est quand même plus au 19e siècle, même si certains essayent encore à l'heure actuelle de nous y ramener socialement. Les populations se mélangent, se rencontrent, vivent ensemble. Et il serait assez problématique de croire que les personnes non blanches ne lisent pas et ne s'intéressent pas au genre de l'imaginaire. Mais comment les y intéresser encore plus en tant que lecteur et évidemment en tant qu'auteur?
Ok, alors pourquoi est-ce que pour le lectorat c'est important d'être représenté?
Parce que quand on voit, quand on lit à propos de quelqu'un qui vous ressemble, alors que la couleur de peau par défaut autour de soi est le blanc, on peut s'approprier plus globalement l'imaginaire d'un auteur. On peut s'y projeter sans effort. Cette projection sans effort, c'est ce que fait la majorité du lectorat blanc avec la production fantasy actuelle. C'est ce que vous faites. J'imagine que vous êtes nombreux à connaître cette déclaration de Whoopi Goldberg. Elle dit « Quand j'avais 7 ans, Star Trek a été diffusé. Je regardais et je me suis mise à crier dans la maison. « Viens voir, maman, tout le monde, venez vite, venez vite. Il y a une dame noire à la télévision et elle ne joue pas une domestique. J'ai immédiatement su que je pourrais être tout ce que je voulais. » Cette référence de Whoopi Goldberg, c'est l'apparition du lieutenant Uhura dans Star Trek à la télévision. Donc un personnage noir qui ne fait pas le ménage, qui n'est pas la loulou. Alors attention, ce n'est pas une obligation, hein. Je suis persuadée qu'on ait un bon nombre de lecteurs et de lectrices de couleur qui forcent la projection justement, en imaginant des personnages plus ressemblants à ce que nous sommes, sans tenir compte de la description ou de l'absence de description de l'auteur. C'est-à-dire que, comme vous, parfois, en tant que femme, vous projetez dans un lecteur, dans un personnage masculin, moi, en tant que personne noire, je me projette dans des personnages blancs sans aucune difficulté. C'est faisable.
Même s'ils sont petits.
Oui, même s'ils sont petits. Et qu'ils n'ont pas de forte poitrine. Enfin, bon, voilà, tout ça, si j'y arrive. Alors, maintenant, ne se jamais, on avait dit pas de mots, ne jamais se reconnaître, cela finit par interroger et peut-être, je dis bien peut-être, par détourner du genre. Je vous cite Nalo Hopkinson, qui est autrice de La Ronde des Esprits. Mon ami Yann Hageman, habitué de la WISCON, qui est une convention américaine, a expliqué lors d'une table ronde que lorsqu'il lisait des futurs de science-fiction remplis de personnes blanches sans aucune autre race, il se demandait quand était intervenue cette guerre raciale qui avait éliminé la majorité de l'humanité et pourquoi l'auteur n'avait pas mentionné un point aussi crucial de l'intrigue. Et oui, y aura-t-il des noirs dans le futur? On ne sait pas très bien, pas toujours, pas dans toutes les histoires en tout cas. Voilà une approche intéressante. Et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse de vous en parler comme ça. C'est, est-ce que vous avez déjà eu à vous demander pourquoi vous aviez l'air de ne pas exister dans un futur spéculatif qu'on vous proposait? La question drôle étant, y aura-t-il des noirs dans l'espace? Star Trek était la réponse rassurante à ce sujet. Qu'est-ce qui pousse à ce questionnement? Est-ce que c'est un questionnement que l'on a uniquement quand on est une personne de couleur? J'ouvre des pistes de débat. Je ne vais pas lancer le débat sans fin des fans, mais si un auteur écrit un personnage noir dans une cité médiévale d'un univers imaginaire, qu'il soit ou non d'inspiration réaliste, en quoi est-il moins légitime d'avoir ce personnage noir qu'une créature avec des ailes ou une queue de sirène? D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, si un auteur propose une histoire de sirène où l'héroïne a des problèmes de cheveux frisés dans le haut, cela vous parlerait de la même façon en tant que public blanc que cela parle naturellement à un lectorat noir? C'est ça le questionnement. Est-ce que à un moment, vous vous posez des questions qui ne vous concernent pas du tout? A priori, non, il n'y a pas de raison. Et c'est ça qu'on propose avec des auteurs issus de la diversité, je déteste cette expression, mais je vais vous l'utiliser, c'est la plus simple, c'est de proposer des visions, des approches qu'on n'a pas quand on ne le vit pas. Le problème de mes cheveux sous la pluie, je vous en parle, mais a priori, vous ne le vivez pas de la même façon, en tout cas, que moi. Et si j'étais une sirène, ou si je vais me projeter dans le personnage d'une sirène, mon souci, ça serait, qu'est-ce qu'elles font, les sirènes noires, quand leurs cheveux sont frisés tout le temps, parce qu'elles sont tout le temps dans l'eau. Voilà. Je vous parle d'ailleurs de quelque chose qui vous échappe complètement, et c'est le CQFD de mon propos. Il y a un lectorat à conquérir, les personnes dont les cheveux frisent à la moindre goutte d'eau. Voilà, c'est... Bon, je continue à plaisanter, mais les cris de Whoopi Goldberg devant le lieutenant Uhura sont de cette nature, la nature de la reconnaissance, l'importance qu'il y a à se voir, à se reconnaître pour s'intéresser. Ce que l'on voit devient possible. Il ne s'agit pas de parcelliser le lectorat en proposant des œuvres thématiques calquées sur les chaînes de télé, la chaîne de la pêche, le lecteur de la pêche, la chaîne de la chasse. Non, ça serait ridicule. Mais peut-être qu'on doit s'interroger sur l'intérêt de faire entrer des visions différentes du point de vue de l'écriture pour attirer des regards différents du point de vue de la lecture. Quand la BBC, par exemple, dans son adaptation de Merlin, décide de donner le rôle de Guenièvre à une actrice noire, combien d'entre vous questionnent ce choix et combien sont, un peu comme moi, pas du tout déstabilisés? C'est-à-dire que moi, Guenièvre, elle peut être noire, verte, bleue, c'est Guenièvre, quoi. Je suis dans le... Je ne la vois pas comme une actrice noire. La fantaisie médiévale, le temps des chevaliers et des dragons, peut-il s'enrichir de personnages de couleur? Question ouverte, et je sais, comme vous, combien il suscite de débats houleux. C'est-à-dire qu'on peut avoir des créneaux du XIIIe siècle dans un château du XIIIe siècle, mais on ne peut pas avoir un chevalier noir. On peut avoir des dragons, hein, c'est le principe de réalité est complètement maintenu, mais un chevalier noir, ça commence un peu aux entournures. C'est un vaste débat, mais voilà, je vous le propose. Et puis surtout, je vous donne juste mon point de vue. Hein. Oui, les personnages de couleur ont leur place au même titre que les créatures chimériques de tout genre qui peuplent ces univers. Pas parce qu'un noir ou un arabe sont des chimères, non, on est bien réel, mais parce qu'en imaginaire, normalement, le ciel est la limite. Alors oui, dépassons cette question épineuse. En fantaisie urbaine, où il semble que la présence des personnages non blancs va de soi pour tout le monde, normalement, il devrait y avoir beaucoup moins de problèmes. Fantaisie urbaine, des noirs, des blancs, des jaunes, des arabes, tout le monde est mélangé. On vit dans un 21e siècle à peu près cohérent. Le monde actuel, même quand les loups-garous et les vampires y font éruption, on peut le décrire avec des noirs dedans, ça va, c'est pas révolutionnaire. Ça, c'est ce qu'on croit. Et en même temps, cette idée ne semble pas si évidente. Il y a des gens qui n'avaient même pas imaginé une seconde, à la lecture de Hunger Games, que Rue, une des héroïnes de ces jeux cruels, soit noire. Elle est pourtant clairement décrite de cette façon par l'autrice, mais l'adaptation cinéma a soulevé des râleries, mais des vraies râleries de fans qui disaient « c'est pas possible, elle peut pas être noire ». L'auteur l'a décrit comme ça. Sauf qu'on est exactement dans la même situation que je vous décrivais pour la lectrice noire que je suis. Parfois, je force la projection à être conforme à mon imagination et à ce que je suis. Et il semble bien que pour certains lecteurs blancs, il soit évident de projeter des personnages blancs, même quand on leur dit le contraire, même quand l'auteur leur dit le contraire. C'est le principe du blanc par défaut. Je vous cite l'exemple de Nora Jenison quand elle a sorti Les 100 000 royaumes. Elle continue à avoir des gens qui lui disent « mais enfin quand même, l'héroïne est noire ». Non, l'héroïne n'est pas noire. Elle l'a réécrit à plusieurs reprises, elle est une inspiration, on va dire, sud-américaine, des personnages indiens, mayas, avec des cheveux certes très très noirs mais très lisses. En plus, elle est métissée avec des personnages qui correspondraient aux blancs du nord des États-Unis. Donc voilà, elle dit, c'est bizarre, mais tout le monde projette que j'ai écrit une héroïne noire. Pourquoi ? Elle dit sans doute parce que moi-même, je suis noire, hein, et que les gens ont du mal à imaginer qu'elle puisse écrire autre chose que ce qu'elle est. Encore plus stupéfiant pour certains, le fait qu'Hermione Granger, Harry Potter, la fille de Moldu victime du racisme des Malfoy, parce que c'est du racisme, hein, clairement, puisse être interprétée par une actrice noire. Et pourtant, qui mieux qu'un personnage noir pour comprendre le racisme dans toutes ses expressions ? Le parallèle était évident pour un grand nombre de lecteurs, même si J.K. Rowling ne s'est pas aventuré aussi loin, mais les fanfictions sont pléthores à aller dans ce sens. Je vous fais une petite truc rapide. Voilà, là on a Rue, l'héroïne de Hunger Games, et puis on a une fanfiction d'Hermione Granger. Moi, personnellement, Hermione Granger, avant qu'on me la vende comme étant Emma Watson, elle était plutôt avec des cheveux frisés comme les miens, sans doute des problèmes de sirène. On peut tous se projeter vers un personnage qui semble roux et avec des taches de rousseur, et puis finalement en faire autre chose. Il y a beaucoup de lecteurs, je pourrais pas le garantir, et ça serait idiot de l'affirmer de façon péremptoire, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'une des raisons du succès d'Harry Potter, c'est que beaucoup de lectorats noirs, jaunes, arabes, s'est projeté dans Hermione, s'est projeté dans la situation de racisme que propose J.K. Rowling. Alors, est-ce que vous vous posez justement ce genre de questions quand vous lisez ? Est-ce que vous imaginez les personnages comme blancs quand aucune indication n'est donnée ? Si je vous disais que moi, Hermione, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai pas imaginée comme ressemblant à Emma Watson, mais plutôt comme une des filles du Cosby Show, quoi. Voilà, moi, je voyais plus Lisa Bonet, enfin, un truc, une intello noire avec des lunettes, normal, quoi, comme moi. Il est peut-être temps, je dis peut-être, hein, tout ça, je mets plein de guillemets à tout ça, et c'est pas dans l'injonction ce que je vous fais part de mon expérience de lectrice. Il est peut-être temps d'instaurer un cercle vertueux qui ferait entrer dans la boucle des auteurs pour lequel la couleur de peau n'est pas par défaut le blanc, afin qu'ils proposent une palette de personnages dans lequel un lectorat non blanc pourra s'identifier, vers lequel il pourra se projeter. Bref, une représentativité qui capte un public qui peut autrement se sentir négligé. C'est un petit peu ce que j'ai essayé. Je vais faire comme ça. Non. Alors là, c'est trop loin pour que je vois. C'est pas ça.
Si quelqu'un a un générique de sirène à nous chanter, bon, une petite pause.
Donc, c'est ce que je vous proposais. Donc, sur la diversité, j'espère que tout le monde a reconnu tout le monde. Là, peut-être que ce personnage-là, vous ne le reconnaissez pas. C'est le personnage. C'est... Non, c'est pas Shaft, non. Shaft, c'est pas très fantasy. Non, c'est le personnage de La Nuit des Morts Vivants. Le personnage qui tient la route tout du long, qui réussit à vaincre les zombies tout du long et qui finit par se faire tuer par redneck de merde. Soyons clairs. Voilà, donc ça, c'est un des premiers personnages noirs importants. On a Matrix, on a Lando Calrissian, on a bien évidemment Firefly, on a Cisco dans Deep Space Nine, on a moi, une de mes héroïnes préférées qui est Angela Bassett dans Strange Days. On a une pilote dans Fantasy, le titre m'échappe, Beyond and, Space and Beyond, qui est une série américaine qui n'a pas duré très très longtemps, mais qui préfigurait un peu Battlestar Galactica. On a le jeune enseigne de Voyager, si mes souvenirs sont bons. On a la compagne, une des compagnes de Doctor Who, donc voilà, c'est possible dans plein d'univers. Là, principalement SF, parce que la fantasy au cinéma, il n'y a pas que des réussites. Mais voilà, ce que je disais sur la représentativité et pourquoi ça fait bouger les lignes et ça peut amener un lectorat qui n'est peut-être pas présent. Je sais pas si... Enfin, moi, de mon expérience, je vais tous les ans aux Imaginales depuis presque 7 ou 8 ans. Je croise de plus en plus de lecteurs jeunes de couleurs et d'horizons variés, mais jusqu'à présent, dans le milieu SF fantasy français, à part 2-3 personnes, on n'est pas très très nombreux, quoi. Et je pense que c'est le cas dans plein d'autres milieux, mais j'ai plein de copines et de copains noirs et ils lisent de la fantasy et je suis comme Isabelle dans des milieux féministes militants et féministes militants noirs. Et j'ai plein de copines qui me disent « Mais t'as pas des bons bouquins à nous proposer où le héros, c'est pas un jeune blond, qui me ressemble pas et dans lequel je me projette pas une seconde ?» Voilà. Alors, pourquoi ce cercle vertueux ? Ben parce que lorsqu'on est à la recherche d'œuvres imaginaires qui vous ouvrent vers un ailleurs ou même un meilleur, il est peut-être démotivant de ne jamais se voir représenter. Michel Nichols, l'interprète du lieutenant Uhura dans Star Trek, c'est une de mes idoles, hein, vous imaginez bien. Elle explique très bien pourquoi sa présence dans la série fut importante et qui le lui a fait comprendre. Elle pensait abandonner à la fin de la première saison parce qu'elle trouvait que c'était pas très très intéressant le rôle qu'elle avait, lieutenant communication, merci. Et puis surtout, elle était plus intéressée par le théâtre et par la comédie musicale. Et puis elle rencontre au hasard un fan de Star Trek qu'elle reconnaît comme étant Martin Luther King. Enfin, lui-même, lui dit, quand elle lui dit bon, ben, je vais peut-être arrêter parce que vraiment je sens que c'est pas très glorieux pour moi, il lui dit ah non, mais surtout pas, quoi. Vous quittez pas la série. Parce que sa présence sur le pont d'un vaisseau spatial, à égalité avec tous les autres personnages, c'était très important pour les Afro-Américains de l'époque. Et que lui a dit vous êtes la seule série, Star Trek, c'est la seule série que ma femme et moi on autorise nos enfants à regarder. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, le noir, c'était pas celui qui balaye, c'était pas l'esclave, c'était pas la bonne, c'était pas la femme de ménage, c'était un personnage comme les autres. Et le fait qu'elle était noire n'avait finalement aucune importance. Je vous rappelle que Star Trek, c'est quand même le premier baiser interracial à l'écran. Pourtant, bon, elle embrasse Kirk, ça c'est une erreur mortelle, il fallait embrasser Spock, mais bon. Heureusement, il y a les films, alors, on rétablit, hein. J'étais pas le seul à penser. Donc il n'y a normalement aucun mur autour de la créativité et de l'imaginaire. La question est donc de savoir, est-ce qu'on ne finit pas par les construire ? C'est Octavia Butler, à qui j'ai un peu piqué cette phrase, qui dit « There are no walls in science fiction, we can build them, but they are not there naturally. » On peut donc les construire, mais naturellement, ils ne sont pas là. Les murs qui existent et qui font qu'il n'y a pas de personnages différents, de personnages qui sortent de la norme qu'on connaît tous, c'est les auteurs eux-mêmes et peut-être les lecteurs qui les construisent. Et si Jérôme me posait la question...
C'est marqué un fait, c'est pas ça.
Non, en fait, notre culture et l'environnement habituel dans lequel nous sommes formatés sont les limites que nous imposons quasi inconsciemment à notre imaginaire. L'uniformité est une posture humaine quasi naturelle, mais c'est en se questionnant qu'on fait bouger les choses. Pardon. Alors, si on demande quelles sont les raisons de la présence aussi peu notable d'auteurs, d'illustrateurs, d'intervenants non blancs dans le milieu de la SF français, de la SF fantasy français, ben, je renvoie à l'idée du cercle virtueux et finalement, je ne sais pas très bien.
Et comment les trouver, ces auteurs ?
Là, honnêtement, c'est la partie du questionnement pour laquelle je n'ai pas poussé très loin la réflexion, sans doute parce que je ne me pose pas le problème en tant qu'éditeur, puisque je ne suis pas éditeur. Mais je peux vous proposer la réponse d'une autrice sur le fait d'intégrer la diversité dans ses écrits, et je cite toujours Nora Jamisin. Donc, voilà pourquoi j'écris de cette façon. Nous avons tous des futurs, nous avons tous des passés, nous avons tous des histoires, et nous sommes tous, chacun d'entre nous, peu importe qui nous sommes, et peu importe ce qui nous a été pris, ou quel poison nous a été inoculé, ou à quel point nous devons travailler dur pour l'évacuer, nous avons tous le droit de rêver. Moi, je trouve cette citation super belle, c'est-à-dire que, allez-y, quoi, peu importe ce qu'on vous propose, peu importe ce que votre propre imaginaire vous propose comme limitation, the sky is the limit, le ciel est la limite. Pourquoi elle est dans le sens ? Pourquoi aller dans ce sens de la diversité ? Parce que ce n'est pas comme si les auteurs manquaient. Hein, je pense qu'en nombre de manuscrits, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que ça pourrait bien apporter aux éditeurs ? Je ne sais pas, de nouveaux lecteurs, peut-être. Je crois que c'est bien ce qu'on a exposé. Moi, je crois sincèrement qu'il y a, il y a tout un lectorat à gagner, un peu comme les jeux vidéo. Je ne peux pas croire que les jeux vidéo comme Assassin's Creed, comme Prince of Persia marchent si bien auprès d'une population multiple et variée et qu'on ne puisse pas faire la même chose avec la fantasy. Je suis persuadée que c'est possible. Donc, en conclusion, après je vous laisserai me poser des questions si vous avez envie, comme le dit George Lucas, toutes les histoires fantastiques sont faites pour vous apprendre quelque chose. Et généralement, ce quelque chose est à propos de vous-même. Alors moi je dis, espérons que le genre va de plus en plus permettre à tous les moi-même d'en apprendre davantage sur eux. Voilà. Et je vous écoute. Donc alors, du coup, je ne vous ai pas montré tout mon PowerPoint, mais c'est le moment. La représentativité, cette image vient de la dernière édition du manuel de joueurs Donjons et Dragons, la 5e édition, où à la rubrique humain, le personnage qui illustre, c'est une femme noire. Pour vous, ça n'a sans doute pas une grande importance, et finalement, peut-être que vous ne le voyez même pas. La personne qui a posté ça sur Facebook et qui a dit « Ah, mais juste, c'est du bonheur, quoi !» C'est une fille noire qui vit en Norvège, elle dit « C'est la première fois, bon, alors, elle est peut-être un peu jeune, parce que sur les éditions antérieures, il y avait des personnages de couleur, on ne peut pas reprocher ça à Donjons et Dragons, mais voilà, c'est un milieu où il y a quand même plutôt pas mal de représentativité. » Mais elle, ce qu'elle dit, c'est « Waouh, c'est la première fois que je me vois, que j'ai l'impression que quand on parle d'humain, on parle aussi de moi. » Donc, voilà. Identification, ben oui, quand on réussit à s'identifier, voilà, ça, c'est pas très fantaisie. Hein. Les Amazones du Dahomey, elles ont existé pour de vrai. Et c'était des guerrières qui ont existé jusqu'au milieu du 19e, si je ne me plante pas trop. Et qui devrait être source d'inspiration autant que les Amazones grecques. C'est possible. Et quand on s'identifie, et ben on se projette. Et donc on peut tout d'un coup s'imaginer en reine des Caraïbes. Voilà. Ou autre chose. Ou en. Moi j'aime particulièrement ce personnage de Steampunk normal, quoi. Elle est normale. Elle fume un cigare, elle a des dreads, elle a son code-barre tatoué dans le cou. Dans un bon roman de fiction spéculative, elle est parfaitement dans la normalité, on est d'accord. Personne ne pose de questions sur sa couleur. Et du coup, si elle est normale, et ben elle est banale. Et si elle est banale, tout le monde se reconnaît, et il n'y a plus de différence. Si on va vers la banalisation, on va vers la suppression des différences. Alors là, pour le coup, je sais que je suis clairement dans l'utopie, mais c'est difficile à mettre en place les choses auxquelles on croit, et j'ai beaucoup apprécié ce que disait Isabelle tout à l'heure sur la différence entre les convictions, les croyances, les idéologies et la pratique au quotidien. Voilà, je ne coûterais pas de sel blanc tous les jours, ce serait nul, ce ne serait pas une pratique très très efficace. Maintenant, quand je dis les blancs, je n'insulte personne. Et quand on dit les noirs, on n'insulte personne non plus. Voilà. On pourra s'en servir à plein de reprises dans les romans, dans la fantasy, dans la SF, pour ouvrir le genre à la diversité et l'enrichir. Moi, je crois que ça va vraiment l'enrichir.
Et c'est peut-être parce que la fantasy n'est pas une littérature comme les autres qu'on peut se poser des questions et en tout cas les débattre. Merci Valérie. Est-ce que quelqu'un a une question à nous poser ? Hormis sur le talent d'acteur réciproque, évidemment, qui sont innés et évidents. Une fois, deux fois, trois fois ? Oui ?
Ben, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque, parce que ce qu'a dit Valérie était tout à fait passionnant, et c'est vrai que j'avoue que personnellement, je m'identifie pas au personnage quand je lis un roman. Je lis le roman pour l'intrigue, l'histoire, etc. Mais je ne dis pas, tiens, celui-là, il est grand, il est blond. Ou il
mais
est
t'as pas 15 ans, quand même.
C'est vrai que j'ai pas 15 ans non plus. Et si tu veux,
moi non plus, Jean-Luc, cela dit.
Mais j'avoue que, par exemple, quand j'avais lu le premier volume des 100 000 royaumes de Nora Jemisin, j'ai trouvé que c'était un roman de science-fiction formidable. Et ensuite, on m'a appris que l'auteur était noir. Mais j'ai dit, qu'est-ce que ça apporte de plus ? C'est une femme qui a du talent. Je me moque, elle pourrait être bleue ou verte, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le talent qu'elle a. Par contre, il me semble que ce qui est plus important, c'est à travers des gens de cultures différentes, quelle que soit là encore leur couleur, c'est la manière dont ils traitent la fiction pour nous introduire dans leur culture, que là, par contre, on a tendance à ignorer. Tu n'as pas cité Nnedi Okorafor, mais Nnedi Okorafor, j'ai trouvé c'est extraordinaire. Bon, elle fait ce mélange de culture africaine, bon, elle est originaire du Nigeria, si oui. Je me souviens bien, ce mélange de culture africaine et les idées qu'elle introduit de sa culture d'origine familiale, ou Vandana Singh pour les Indes, ça c'est extraordinaire. Et là on se pose pas j'avoue qu'on se pose pas trop pour moi la question de la couleur, c'est on rentre dans la culture comme on pourrait aussi bien lire un écrivain ou une écrivaine sud-américain ou italien par exemple.
Oui, mais alors après, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, après il faut aussi se rendre compte du point de vue de ces auteurs-là et du point de vue du lectorat, comment c'est difficile. Moi, il y a 20 ans, quand je rentrais dans certaines librairies un peu spécialisées, j'en ai parlé à Jérôme Salaferrière, j'avais parfois l'impression, en tant que lectrice de fantasy, dont la grand-mère en lisait, dont la mère en lit, donc pour moi, familialement, c'était tout à fait normal de lire de la fantasy, et bien, dans certaines librairies, j'ai un peu l'impression d'être une femme qui débarquait au rayon bricolage du BHV. Hein, c'est-à-dire que, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait là ? Qu'est-ce qu'elle vient ? Pourquoi ? Voilà. Donc, les milieux étaient un peu fermés à la féminité, et puis, on a dépassé ça, et maintenant, ils sont, à mon sens, un peu fermés. Pour te dire, Nora Jemisin, que j'ai rencontrée comme toi aux IMA il y a 3 ou 4 ans maintenant, au moment où elle est sortie, ouais, il y a 4 ans, quand elle m'a vue, puisque je lui ai fait une petite interview, elle m'a dit « Ah, ben ça me rassure un petit peu, j'ai l'impression d'être la seule personne de couleur dans cet univers. » Voilà, elle arrive en France, elle fait Paris, Épinal, et quand elle est en face de moi, elle me dit « Ah, mais il y a d'autres noirs, donc ici. » Voilà, pour elle, il y a aussi cette question de, encore à l'heure actuelle, quand elle va dans les conventions aux États-Unis, il y a des gens pour lui toucher les cheveux et pour lui dire ah, voilà, parce que c'est aussi, elle a un rapport aux choses qui est à l'américaine, donc qui est certes différent d'une autre. Mais quand même, moi je suis bien persuadée, ce que je disais tout à l'heure sur mes petites camarades noires militantes qui sont toutes à bac plus 5, hein, c'est pas des filles qui sont pas intéressées par la lecture, elles lisent, elles me disent. Je ne trouve pas de trucs qui m'intéressent. Je ne trouve pas de choses dans lesquelles on parle de moi. Enfin, il y a un moment aussi où la littérature, c'est aussi un peu la question de trouver ce qui parle de soi et de comprendre comment l'améliorer, comprendre comment s'améliorer soi pour améliorer la vie autour de soi. Enfin, il y a aussi, sans projection, c'est s'intéresser à l'autre dans toute sa diversité. Et j'ai du mal à voir dans certains romans encore actuels cette diversité-là. Et puis, Antoine André l'a dit tout à l'heure, sur Ben Abramovitch. Ça marche super bien, la fantaisie avec un personnage noir. Quand personne ne se pose plus la question, effectivement, on peut... Mais on n'en est pas au stade où personne ne se pose plus la question. On en est au stade où, quand une actrice joue la suite de Harry Potter et qu'elle est noire, les gens disent « Ah mais non, c'est pas possible. Hermione, elle peut pas être noire. » On en est encore quand même un petit peu à ce stade-là.
Moi, ce qui m'intéresse dans ce débat-là, alors je ne suis pas noir, je ne suis pas une sirène, je n'ai pas les cheveux qui frisent.
Ça c'est vu.
Enfin, si je frise, mais comme Charles Trenet, bon, c'est pas très sexy. Enfin bon, bref, je ne vous passe les détails. C'est pas tant mon point de vue, en fait. Je suis un garçon blanc, donc l'identification, même si je suis plus jeune, c'est pas pour moi. Enfin, cette question-là ne m'interroge pas en tant que lecteur, parce qu'en tant que lecteur, je suis capable de lire Nnedi Okorafor ou des romans avec de la fantaisie aztèque, tu vois, et ça ne me pose pas de problème. Et je trouve ça même plutôt cool, parce qu'effectivement, on a de la fantaisie africaine. Mais il y a deux choses qui m'interpellent, et je pense que ça mérite débat. La première chose, c'est qu'il y a un fait, nous n'avons très peu de lecteurs de couleur ou de... lecteur autre qu'un morphotype blanc classique dans les conventions. Donc si c'est le reflet de nos lectorats, on a bien un fait, c'est la même chose chez les auteurs. Donc il y a deux questions, c'est un pourquoi, et je ne parle même pas de vente ou de choses classiques, c'est un vraiment pourquoi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça. Deux, si moi je ne le ressens pas, comment est-ce que peuvent le ressentir aussi d'autres gens? Après tout, je ne suis pas un gamin noir de 13 ans, par exemple, qui lirait de la fantaisie. Donc je peux entendre que peut-être que eux, en termes d'identification, ça pose un problème. Mais évidemment, c'est pas moi, c'est un pur jeu intellectuel. Troisièmement, je pense qu'on a une littérature qui est assez ouverte pour se poser la question. Il y a quelques années, on se posait par exemple la question de la sexualité en fantaisie. On se posait la question de l'homosexualité en fantaisie. On se posait la question de la politique ou des choses comme ça. Donc après tout, posons-nous la question, rien que la question est intéressante. Peut-être qu'en se posant la question, on découvrira qu'effectivement, il n'y a aucun problème. Peut-être une réponse, ce sera de dire, bah c'est comme ça et c'est pas grave. Mais déjà se poser la
question.
Voilà, déjà se poser la question, c'est déjà s'interroger, c'est déjà faire avancer les choses. Quoi.
Mais, en fait, bon, moi, j'ai pas traité... En fait, moi, je me suis plus posé la question en tant que femme, ce que je ne faisais pas avant. Il y a quand même un effet pervers au fait parce que les gens disent toujours « Non, mais moi, je ne vois pas les couleurs, je ne vois pas les genres, je peux trop m'identifier. » Et en fait, ça dénote, alors ça dénote une réelle ouverture, et c'est sûrement vrai dans le cas des gens qui disent ça, mais ils ne se rendent pas compte que pour eux, c'est aussi facile. C'est facile d'être le neutre. On est dans une société où la neutralité, c'est un homme blanc, hétérosexuel. Et très souvent, et comme si Laurent...
La neutralité, super.
C'est l'artiste que la neutralité, c'est les paramètres par défaut. Mm-hmm.
C'est ce que je dis sur le blanc par défaut.
Et ça, c'est un vrai problème, parce que bon, déjà, en tant que femme, on est quand même plus de la moitié de l'humanité, donc c'est quand même un peu chelou de s'entendre dire que par défaut, alors qu'on est la majorité, on est l'écart à la... Mais ça a quand même des effets très pervers. Moi, je le vois, je vais plus parler dans le cas du sexisme, parce que forcément, je suis plus concernée, mais je vois, en discutant avec des copains libraires, les gamines, elles vont lire les femmes vont lire des littératures avec des hauts hommes, sans aucun problème. De toute façon, elles n'ont pas le choix, parce que même si ça évolue, moi, gamine, si j'avais dû lire que des bouquins avec des héroïnes, j'aurais pas eu grand-chose. Ou alors, j'aurais beaucoup de... référent très doux, très maman
putain, plus de la margarine.
Mais ça pose quand même un vrai problème d'empathie, parce que moi, on voit souvent, mes potes libraires voient souvent des gamins ou des parents qui anticipent, mais même des fois les mômes, et même des fois les adultes, hein, parce qu'on a beau tous dire qu'on se fait pas influencer par ça, ou pas, qui ont plus de mal à s'identifier. Alors après, tout le monde ne fonctionne pas par l'identification, on a bien vu, mais beaucoup de gens fonctionnent par l'identification, et même des adultes. Moi, ça pose vraiment un problème. Je pense que ça a des répercussions sociétales sur les défauts d'empathie, après, vis-à-vis des vraies personnes. Et je pense que ce qu'on peut faire aussi en tant qu'auteur, j'ai mon éditrice Audrey Alouette, dont on parlait tout à l'heure, elle a écrit un article comme ça très récemment, où elle parlait des représentations des femmes, Et comme tu disais dans le cas de la science-fiction, où voilà, là il n'y a pas de noir, qu'est-ce qui s'est passé quand il n'y a pas de noir dans le futur, tous les personnages dont le sexe n'a aucune importance, par défaut, spontanément, même des auteurs pas sexistes et même des auteurs féministes, par défaut, vont mettre des blancs. Il y a un boulanger, oh bah c'est des blancs, des hommes. C'est des blancs aussi. Il y a un boulanger, oh bah ça va être un homme blanc hétérosexuel, il y a besoin d'un flic, c'est particulier. Il y a un courtier d'assurance, oh bah ça va être un homme blanc hétérosexuel. C'est juste c'est par défaut. Et on ne peut pas dire, même si moi, enfin, même moi qui suis particulièrement sensibilisée à ces choses-là, j'ai parfois ce mode défaut. Et je pense que faire l'effort conscient en tant qu'auteur, de mettre un personnage qui n'est pas forcément un homme, qui n'est pas forcément blanc et qui n'est pas forcément hétéro, dans un rôle où on s'en fout de la couleur, du genre ou de la sexualité de la personne, ça c'est un effort conscient qu'on peut faire, qui ne casse en rien notre spontanéité d'écriture, c'est pas de l'autocensure ou du politiquement correct, c'est juste un effort qu'on peut conscient, qu'on peut s'efforcer de faire, et petit à petit ça va se faire naturellement.
Mais pour revenir sur ce que disait Jean-Luc, on arrête. L'idée, c'est bien évidemment, ça ne devrait pas être un premier questionnement. Je suis complètement d'accord là-dessus. Ça ne devrait pas être un premier questionnement. Mais moi, je, à l'heure actuelle, parce que j'ai envie que le monde avance un peu, je me dis que si on s'illusionne là-dessus et on espère vivre dans une belle utopie où tout est par défaut, tout le monde est égal par ailleurs. Voilà, tant qu'on ne sera pas à ce niveau où le blanc, le noir, le jaune, le vert, le féminin, le masculin n'a aucune importance, tant qu'on ne sera pas là, il faut continuer à remettre les choses en question pour que ça avance. Voilà, c'est ma petite opinion.
On va dire merci à Valérie.
Merci.